Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Paul Rosenberg, le producteur, et Blanche Finger, la réalisatrice, avec William Carell, de la série de 8 documentaires jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, que nous avions déjà commencé à évoquer la semaine dernière, une série soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et dont les deux derniers épisodes seront diffusés sur France 2 le 3 février à 22h55. Donc, dans cette série de documentaires, Blanche Finger, que vous revenez donc sur le sort des Juifs en Europe depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 jusqu'à aujourd'hui. Les deux derniers épisodes de cette série dont nous allons parler donc, aujourd'hui sont plus précisément consacrés à ce qui va se passer après la Shoah, en Allemagne, en Pologne, mais aussi en Israël. C'était important pour vous de ne pas arrêter cette série, justement, avec la libération des camps?
Bien sûr, parce que grâce aux historiens que nous avons rencontrés, nous nous sommes aperçus que, comme le dit David Cesarani, la souffrance des Juifs ne s'arrête pas à la fin de la guerre pour les survivants. Les survivants, d'abord, sont placés dans des camps qui étaient souvent d'anciens camps de concentration. Et ils sont dépossédés de tout, ils n'ont pas de lieu d'accueil, parce que juste après la guerre, c'était compliqué encore pour eux d'être accueillis. La plupart qui étaient ou en Pologne ou dans d'autres pays ne veulent évidemment pas y retourner. Donc ça, c'était ce premier plan où on découvre. Bon, après, il y en a certains, après la fondation de l'État d'Israël, qui seront accueillis, enfin, qui émigreront en Israël. Et surtout la Pologne qui est encore violemment antisémite. Et donc, cet événement qui s'appelle Golden Harvest, qui est la moisson d'or, et dont Jan Gross nous explique qu'un jour, il a découvert, publié dans le journal, comme chaque année, une image de la fin des moissons, mais qu'au lieu de voir les récoltes, on voyait une dizaine de paysans hilares, et à leurs pieds, les squelettes, et des squelettes. Et donc il s'est approché, il a découvert que tout de suite après la guerre, alors que la plupart des, pas Auschwitz, mais les quatre autres centres de mise à mort avaient été entièrement rasés, les paysans allaient creuser, même pas dans les fosses qui n'existaient plus, ils allaient creuser le sol à la recherche de l'or et des diamants juifs. Donc l'idée d'associer les juifs à l'or et l'argent était encore extrêmement forte. Et c'est tout à fait étonnant de voir cette image, surtout le hiatus entre ces paysans tellement heureux et ces corps... Et après, surtout, il a évoqué, bon, ce qu'on connaît un peu, c'est le pogrom de Kielce, cette ville où très peu de survivants sont revenus, et d'autres pour retrouver leur famille, pour retrouver peut-être leurs biens. Et il nous explique bien à quel point l'accueil des Polonais a été extrêmement violent, en disant quoi, vous êtes des survivants, et avec cette peur de dire, ils vont nous reprendre, on a occupé leur maison, on a pris etc. Et comment fonctionne l'idée du pogrom? Un enfant chrétien a disparu, ce sont les juifs, et on ne peut plus dire pour fabriquer des matzot, puisqu'on est en juillet, mais pour prendre le sang de ce petit garçon, pour régénérer les survivants qui manquaient de force. Donc ça, c'était un élément extrêmement violent.
Vous ouvrez... L'avant-dernier épisode là-dessus, et vous montrez bien à quel point, évidemment, la Pologne, l'antisémitisme en Pologne n'a pas disparu, évidemment, avec au moment de la défaite nazie, et que ce retour, qui est quasiment impossible pour de nombreux juifs qui vont tenter de revenir, vont immédiatement, en tout cas dès 1946.
Tout de suite après le pogrom de Kielce, les gens fuient la Pologne. Et je ne sais pas si leur intention était de vraiment s'installer. Enfin, évidemment. Mais en tout cas, tout le monde, la plupart en vont, il en reste très 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 peu.
Ceux qui ne sont pas communistes sont bons.
Dans un premier temps, oui, parce que ceux qui sont communistes n'auront pas forcément un destin des plus heureux par la suite. Mais
ils ne savaient pas encore en 47.
C'est un autre sujet. Vous revenez également sur un autre aspect, c'est la justice. Donc, dans un premier temps, le procès de Nuremberg. Et vous montrez aussi la manière dont la spécificité de la Shoah va être évacuée des débats. L'un des historiens dit aussi que c'est parce que les plus grands responsables sont morts, Hitler bien sûr, mais aussi Himmler et Heydrich. Et puis, vous l'avez rappelé, les preuves, beaucoup de preuves ont été détruites avec le plus grand soin, de même que les camps de Sobibor ou de Treblinka. Et
peut-être qu'au procès, je m'avance un peu, au procès de Nuremberg, le grand procès, enfin les historiens le disent aussi, personne ne prend la mesure de la destruction des Juifs. Mmh. Donc, si vous voulez, parfois, il y a des témoins qui parlent yiddish, qui veulent intervenir, mais on ne les laisse pas parler. En fait, c'est pas le... je veux dire, les alliés, leur vocation de ce procès, c'est, si vous voulez, de mettre en scène. Et donc, ce qu'ils peuvent mettre en scène, c'est les principaux responsables qui sont encore vivants. Et donc, il faudra attendre, et c'est la décision quand même américaine, la dizaine de procès qui vont mettre en route, et donc celui qui a été mené par le procureur Benjamin Ferenc.
Oui, ça c'est un personnage fondamental.
Le grand plaisir de rencontrer 70 ans plus tard, alors qu'il avait 23 ans ou 24 ans, il est nommé procureur. Et lui, qui a toujours une vivacité absolument merveilleuse, donc nous a raconté exactement, vraiment, exactement comment s'est passé ce procès, comment, tout à fait par hasard, parce qu'on l'avait chargé de trouver des archives, de retrouver les documents qui impliquaient les unités mobiles de tuerie. Donc voilà, il disait, ça y est, mon procès, je peux commencer, j'ai les preuves en main. Et on a ces images absolument incroyables des hauts responsables des groupes A, B, C, D qui apparaissent, voilà. Ça, c'était un moment extrêmement fort pour nous de rencontrer l'histoire, vraiment.
Oui, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un de ceux... Alors, vous le disiez, étant donné que les grands responsables étaient morts, du coup, Nuremberg n'était pas là pour faire l'histoire, mais pour faire la justice. Et du coup, il a fallu voilà, ce Benjamin Ferenc pour aller chercher des preuves, pour aller... Et qui, lui, va entamer, finalement, ce travail-là, d'une certaine manière.
Absolument.
Avec les témoins, avec...
Avec les témoins, des témoins, enfin, les acteurs. Et les témoins, certains témoins. Et donc, avec... C'est une grande tristesse qu'il éprouve en disant, est-ce que justice a été rendue? Il n'a pas le sentiment qu'à ce moment-là, justice a été rendue, puisqu'il y a très très peu de responsables qui ont été jugés.
Certains, et condamnés.
Et condamnés, ou même condamnés, comme on l'a vu partout, à des peines quand même extrêmement légères.
Oui. Mais et puis très vite, la dénazification va s'achever en Allemagne de l'Ouest, parce que les Américains ont un nouvel ennemi, ce sont les Russes. De même que la plupart des grands industriels, type IG Farben, qui est complètement impliqué dans la Shoah, ne seront pas inquiétés.
Mais c'est parce qu'il y a la décision aussi de dire une société, pour qu'elle fonctionne, il faut des cadres, il faut des grands... C'était impossible, si vous voulez, pourquoi, enfin, aux yeux des Alliés. Mmh. Donc, si vous voulez, on a fait une dénazification
light,
on va dire, légère, pour que la société allemande, et on le voit aujourd'hui...
Aujourd'hui, ça va mieux.
Oui,
non,
absolument.
Mais je veux dire que...
ils sont morts, la plupart.
Oui,
non, c'est pas ça. Non, mais je veux dire que l'Allemagne se remet en marche et chaque citoyen se sent investi absolument de ce rôle de... Voilà, il faut retrouver l'Allemagne, une Allemagne... débarrasser des nazis, entre guillemets, bien qu'ils sont un peu partout. Voilà, il faut que la société redémarre. Il n'y a pas de...
Il y a notamment Beate Klarsfeld qui apparaît dans le film, en 1967, je crois, voilà, donné cette gifle au chancelier Kissinger parce qu'il était justement un ancien nazi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'en les 60-70, les nazis étaient encore au pouvoir en Allemagne. Alors il y a un autre grand procès qui vous intéresse donc dans ce documentaire, c'est évidemment le procès Eichmann. Et vous montrez aussi comment... ce procès, au-delà de l'apport historique, a changé le regard de la société israélienne sur les rescapés. Un regard qui était jusque-là assez dur.
Assez dur et si vous voulez, on n'avait pas pris la mesure de la manière dont les rescapés sont arrivés. Et certains, bon, ils ont voulu recommencer, enfin, faire fonder une famille, mais leur souffrance, elle a été mise sous un espèce de chape. On était, bon, c'était l'après-guerre, fallait construire un pays, fallait un tas de choses, mais cela...
Ça ne correspondait pas à l'idéologie de l'homme nouveau non plus, voilà.
Et donc, pendant 15 ans, on n'en a pas entendu parler. Et soudain, le procès Eichmann, et lorsqu'on a convoqué les témoins, ça a été un bouleversement pour toute la nation. C'est-à-dire, pour la première fois, ils ont entendu ce qu'avait été, en fait, l'extermination des Juifs d'Europe. Et ça, c'est... Tout le monde le raconte, tout le monde avait son petit transistor, tout le monde écoutait. On leur a restitué une place dans l'État. Et plus seulement cette image que beaucoup véhiculaient, c'est-à-dire, il y avait le ghetto de Varsovie et les héros, et le kibbutz Lochamé à Guetaot, les combattants du ghetto qui existaient depuis longtemps, mais les autres. Et alors que certains disent, bon, mais les autres, leur force et leur résistance, c'est d'être là, tout simplement.
Alors qu'ils étaient vus comme des victimes, voire même coupables d'avoir survécu.
Il y avait ce sentiment. Il y en a qui disent des choses un peu fortes en disant les bons sont morts, les mauvais sont vivants. Quelque chose, enfin, c'est un peu abrupt ce que dit Tseguev, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait ce sentiment en Israël.
Ouais. Ah oui, non, mais vous montrez bien la violence de cette
impression. Absolument, pendant très longtemps.
En Europe ou en Israël,
où j'étais moi-même, je veux dire que c'était quand même très très fort ce sentiment.
Je pine du chef.
Vous posez aussi la question de l'aide aux rescapés de la Shoah. En Israël, on compte aujourd'hui 250 000 rescapés, c'est bien ça ?
Incapable de vous certifier le chiffre, peut-être, oui.
Mais ça reste une question délicate.
C'est-à-dire qu'entre les premiers qui ont bénéficié de l'argent, puisque bon, personne n'aime le terme de réparation, qu'est-ce qu'on répare, en fait ? Des Allemands, parce qu'ils étaient en Europe, et ceux qui ont été, qui étaient en Union soviétique, et qui n'ont jamais eu accès, puisque d'abord les Allemands ont dit on s'occupe de ce qui s'est passé, dont on avait le contrôle, et l'Union soviétique, et Paul, tu peux.
Oui, donc toutes les victimes à l'Est.
De l'Ouest ont pu accéder, comme dit Blanche, aux réparations. Les victimes qui étaient dans les pays de l'Est, dans les nouveaux pays de l'Est, du bloc de l'Est, n'y ont pas eu accès. Après la chute du mur, après la perestroïka, l'arrivée massive de juifs d'Union soviétique et des pays de l'Est en Israël, âgés, démunis, souvent ils sont démunis, deviennent âgés et n'ont pas de réparation, n'ont pas de quoi. Sans rentrer dans la politique israélienne aujourd'hui, ce n'est pas le propos du sujet. On va dire que ce n'est pas un welfare state aujourd'hui comme il a été auparavant. Donc, socialement, ça a posé des problèmes, effectivement. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est eux, les victimes. Ça, c'est notre sujet. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Là, on est dans notre sujet, dans notre propos.
C'est-à-dire que malgré tout... Non, mais c'est pas... C'est évoqué par les écrivains que nous avons rencontrés. Parce que, voilà, il y a eu des manifestations, mais évidemment, c'est pas le cœur de notre film.
Non, bien sûr. Mais en l'occurrence, vous allez jusqu'à aujourd'hui, et c'est une question, évidemment, qui est posée, puisque les rescapés, aujourd'hui, sont des personnes âgées, dont certaines sont sans ressources. C'est une réalité,
bien sûr. Absolument. Donc, il y a bien... Voilà. Et donc, c'était... les écrivains que nous avons rencontrés, c'était dans leurs œuvres, quelle place... La mémoire, comment la restituer, sous quelle forme plutôt, sur quelle forme, c'est des écrivains, donc...
Donc ils croient à la littérature.
Pardon ?
Ils croient à la littérature,
exactement, très fortement.
Il y a aussi, puisque c'est donc cette question de la mémoire qui occupe le dernier épisode de la série, vous évoquez aussi l'initiative des Stolpersteine en Allemagne, oui, qui est une manière justement d'inscrire vraiment la mémoire dans le territoire de la ville.
Mais oui, enfin, pour eux, absolument. Je ne sais pas à quel moment cette initiative, mais je pense...
C'est dans les années 2000, je crois, oui, que c'est apparu. Ça.
Et donc, l'historienne Suzanne M., pour elle, évidemment, c'est un moment très important où les Allemands inscrivent dans leur sol ces morts.
Parce qu'il faut décrire, en fait, pour les auditeurs, ce sont des petits pavés.
Des petits pavés de...
En bronze,
en cuivre ou dans un métal très solide et précieux.
Mais qui sont justement pour qu'on s'accroche en marchant. Ils sont pas fichés dans le sol. Il y a tout. Et l'idée, c'est vous allez trébucher sur ces petits et comme ça vous allez.
C'est pavés sur lesquels sont inscrits les noms.
Graver les noms, date de naissance.
Et les lieux éventuellement de la déportation.
Les lieux de leur mort quand on la connaît, bien sûr.
Et ça, c'est très beau puisque c'est dans la rue où ces gens ont habité. Donc c'est vraiment rendre cette place
exactement
dans la ville.
Oui.
Un travail qui, manifestement, n'a pas été fait en Pologne. C'est très fort aussi ce que disent.
Si vous voulez, la Pologne, c'est un peu... Enfin, là, je ne sais pas parce que nous n'avons pas été en contact. Je sais pas ce que. Enfin, nous avons vu le musée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Mais c'est-à-dire, ce qui n'a surtout effondré, c'est Cracovie. Cracovie, magnifique ville que les Allemands n'ont jamais bombardée parce que Hans Frank trouvait ça tellement. Enfin, il aurait trouvé insupportable d'avoir, puisque c'était sa capitale entre guillemets. Et donc, nous avons été au marché couvert. Et là, nous avons été tellement étonnés de voir qu'on vendait des tableaux. De peintures de juifs, bon, alors évidemment identifiables par leurs habits, c'est pas monsieur tout le monde, et qui tenaient entre leurs mains des billets. Je sais plus, je me suis pas approché pour voir si c'est des zlotys de l'époque ou. Et donc, c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire, vous savez, vous avez des tout petits rabbins aussi qui tiennent des petites pièces d'argent. Voilà, ça c'est.
Souvenir de Cracovie.
Ça, c'est 2014, Cracovie. Et comme dit Jan Gross, leur deuil, les Polonais n'ont pas encore fait le deuil de la mort des Juifs en Pologne. Puisque c'est quand même un lieu où, contrairement à d'autres, où il n'y avait pas une petite ville, un petit village où il n'y avait pas de communauté juive. Je veux dire que tous les Polonais ont eu des voisins juifs. C'est vraiment... leurs voisins, c'était assez exceptionnel, même si la situation des juifs polonais juste avant la guerre était effroyable déjà. Donc c'est un autre problème.
Mais vous montrez bien que cette mémoire fait finalement l'objet d'un commerce touristique. Il y a vous filmez des minivans. Voilà ça. Ouais. Les mines de sel ou Auschwitz Tour.
Oui, ça fait déjà quelques années qu'il y a. Depuis, en fait, je pense que depuis qu'il y a eu le film Schindler List, qui a été tourné évidemment à Cracovie, voilà, ça fait, il y a quelques années déjà, on était pour Album d'Auschwitz à Cracovie, on a vu déjà, c'était mis en place, parfois vous pouvez même aller en calèche, d'un endroit à l'autre, enfin bon. Mais en revanche, c'est hors contexte du film, mais je trouvais que la réalisation scénique du musée, entre guillemets, Schindler, est de grande tenue.
Et en l'occurrence, il y a aussi une grande évolution à Auschwitz même, c'est-à-dire que cet aspect purement commercial, ça concerne Cracovie, ça ne remet pas du tout en cause...
Non, pas du tout, Auschwitz...
C'est ce contraste, en fait, qui est très surprenant, quoi, entre ce côté hyper touristique, enfin, une banalisation presque de l'objet, quoi, c'est...
Alors, c'est pas parce que parfois ils évoquent Auschwitz, les mines de sel, je sais même pas où vont ces touristes. Est-ce qu'ils vont vraiment à Auschwitz-Birkenau? Je sais pas. C'est extrêmement bizarre parce qu'il n'y a aucun signe qui écrit sur son petit bus Auschwitz-Birkenau. Il y a Auschwitz, mais on ne sait pas très bien ce que c'est.
Et ça, c'est quelque chose que les historiens, vous avez rencontré notamment la responsable des archives, Ringelblum, c'est quelque chose dont... C'est une question pour...
Ils en parlent, disons que c'est... Je pense que c'est un peu difficile quand même pour eux. Bien, on a posé quelques questions sur... C'est pas très, très facile d'en parler. Alors peut-être que pour d'autres, oui, mais disons que pour eux-mêmes, c'était pas évident d'évoquer cet après-guerre.
En l'occurrence, ces deux derniers épisodes vont être diffusés le 3 février. Vous parlez, bien sûr, beaucoup de l'antisémitisme dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50 en Pologne. C'est important pour vous aussi que ce film puisse être vu aujourd'hui sur cette question-là, précisément.
Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que... L'antisémitisme n'est pas quelque chose qui a vécu et qui s'est arrêté. Il a ressurgi sous différentes formes. Évidemment qu'on ne peut jamais associer l'idée que même l'antisémitisme peut conduire à ce qui s'est passé, évidemment. Mais l'antisémitisme n'est pas non plus quelque chose qui a disparu. Il ressurgit à chaque fois sous différentes formes. Non ?
Et comment ? Pour l'anecdote, je crois que la télévision polonaise est la seule télévision d'Europe qui ne diffusera pas le film, pour l'instant.
Ah oui. Mais ils les ont vus ? Ils ont vu les documentaires déjà ou pas encore ?
Ça leur a été proposé.
C'est pas un sujet.
C'est un sujet encore un peu sensible. Ce qui n'est pas le cas de la télévision allemande, ce qui n'est pas le cas de la des télévisions scandinaves, des télévisions belges, suisses. Tout le monde porte sa croix. Mais là, la télévision polonaise, c'est encore pour eux, pour leur public, un sujet sensible. Mmh. Je ne dis pas autre chose, je reprends leur terme, c'est un sujet sensible.
En tout cas, j'invite donc tous les auditeurs à voir ces deux derniers épisodes de votre série Blanche Finger, Paul Rosenberg. Je rappelle donc que cette série était co-réalisée par William Carell, bien sûr. Jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et donc les deux derniers épisodes seront diffusés sur France 2 le 3 février à 22h55. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.